L'Esprit Libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Voilà, ici on ne vous cache tout et on vous dit absolument, on vous cache tout, on vous dit tout et on ne vous cache rien. Vous voyez, c'est l'émotion qui me prend, c'est parce que j'ai vu la une de Paris Match avec Sonia Mabrouk et Pascal Obispo, donc je suis troublé. Mais nous allons passer à un sujet un peu plus sérieux, qui est effectivement le dispositif Attal. Alors, on va pas redonner les mesures, parce qu'on les a données depuis ce matin, Bruno. Mais est-ce que ça vous paraît crédible? Est-ce que tout le monde a été prévenu? Ou est-ce que c'est une percée solitaire du ministre des Comptes Publics?
Crédible, on aimerait. Parce que c'est pas la première fois qu'un gouvernement s'attaque.
C'est la fusion de la carte d'identité.
Voilà.
Carte
alors, le grand truc, c'est ça. Alors, effectivement, ça, c'est, sur le papier, c'est magnifique. C'est beau comme l'antique. Le seul problème, c'est que, un, déjà, en France, on a du mal à délivrer des cartes d'identité dans un délai, en grosso modo, de 6 mois, à peu près, pour avoir son billet à Paris, là. Et deuxièmement, il semble que, le ministère de l'Intérieur, ce matin, fasse état que il n'y a pas une forte coordination avec le ministère des Comptes Publics. Donc,
dites-nous la vérité. Quand il n'y a pas de forte coordination, c'est qu'il n'a pas prévenu.
Il n'a pas prévenu, c'est ce qu'affirme nos confrères de Politico. Donc, ce serait mieux quand même qu'ils se coordonnent, parce que sinon, ça risque quand même d'être un coup d'épée dans l'eau.
Oui. Enfin, il y a tout un dispositif, donc il y a surtout la vérification des Français qui vivent vraiment à l'étranger ou pas à l'étranger, en regardant les fichiers aériens. Il y a aussi effectivement la possibilité. Donc,
il y a juste un truc qu'il faut avoir en tête, Guillaume, c'est que 30%. C'est que 30% des Français qui sont éligibles aux allocations sociales ne les demandent pas. C'est à peu près 5 à 6 milliards qui ne sont pas versés par l'État. Donc si jamais un jour ils leur prenaient l'idée de la demander, eh bien on annulerait d'un seul coup ce qu'on récupère de l'autre côté. Donc notre système est assez complexe. Il y a un truc qui fait que il y a beaucoup de gens qui ne demandent pas parce qu'ils ont pas numérique, c'est compliqué.
Parce qu'ils n'ont pas le temps aussi, parce que les dossiers sont compliqués.
Et ceux qui ne demandent pas,
Rachel, deuxième sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est demain donc la réunion de la commission des affaires sociales avec un équilibre entre la majorité et l'opposition sur la réforme des retraites. En fait, ce que cherche Charles de Courson, puisqu'il sait très bien que le Sénat emportera la donne et que ça n'aura pas lieu, mais ce qu'il cherche, et il le dit ouvertement, c'est de faire voter à l'Assemblée nationale qu'il y ait enfin un vote et que ce vote soit contre la réforme des retraites et après qu'elle soit invalidé par le Sénat. J'allais dire presque qu'il s'en fiche, mais il veut qu'il y ait un vote, et qu'on ne soit pas passé par le 49-3. Est-ce que cette opération a la moindre chance, l'opération Liotte, on va l'appeler comme ça, d'arriver ou pas?
Non, elle n'a pas de chance d'arriver, je ne pense pas. En revanche, c'est vrai que ça nous pose trois sujets. Le fond, la forme, la cohérence. Sur la forme, on voit bien dans cette prise de position qu'il y a quelque chose de l'ordre de la communication. Là. Après, moi, ça me pose un problème d'un point de vue de cette forme, c'est si on se mettait à revenir à chaque fois sur les lois qui ont été votées, le passage a été douloureux, déjà. Donc, revenir sur ça, ça sent le réchauffer et ça sent la communication. Après, sur le fond de cette histoire, on sait que cette réforme était nécessaire d'un point de vue démographique, d'un point de vue des finances publiques.
Donc, lui, le nie. Il dit sur l'année en cours, c'est 300 millions. C'est 300 millions d'euros. Donc,
après, l'autre problème que j'ai, c'est sur le positionnement de Monsieur Coquerel, qui est président de cette commission et qui va jouer un rôle clé, mais là il va se mettre surtout dans un rôle militant et pas un rôle de président d'équilibre sur cette réforme nécessaire.
Donc le pronostic, Bruno. Le journaliste politique que vous êtes.
Le pronostic, on va sans doute le savoir. On le posera demain lorsqu'on aura le résultat du nombre de amendements déposés. Puisque si la majorité veut vraiment empêcher le groupe Liotte de réussir son opération, comme vous dites, eh bien, il va falloir que le gouvernement fasse de l'obstruction pour
qu'il n'y ait pas de vote, quoi.
Qu'à minuit, on lève la séance faute de vote.
Oui, mais vous savez, parce que vous suivez l'affaire des réformes des retraites, que ça s'est envenivé à partir du moment où il y a eu 49-3, et que là, s'ils font obstruction à un vote, les gens vont encore dire.
Les populistes
vont hurler en disant mais comment, à chaque fois que le peuple est sur le point de ses représentants de voter, et ben non, on arrête tout.
Nous sommes dans une schizophrénie à tous les étages. C'est-à-dire que d'un côté, on a M. de Courson qui était, il y a encore l'année dernière, qui défendait la retraite à 65 ans. Et qui aujourd'hui veut déposer un amendement, un projet de loi pour abroger la retraite à 64 ans. Et puis de l'autre côté, on a un gouvernement qui n'a cessé de dénoncer l'obstruction de LFI et qui, pour empêcher cette proposition de loi qui est quand même à l'heure pour les Français, parce que la loi a été promulguée le 14 mars, et cette proposition de loi, même si elle passait à l'Assemblée nationale, ne passera jamais au Sénat, eh bien il va devoir faire de la l'obstruction, c'est-à-dire utiliser l'arme des insoumis.
Alors nous allons aborder un autre sujet, parce que finalement, j'abandonne mon idée de parler encore du Festival de Cannes, parce que il y en a partout dans les journaux et la polémique commence à tourner en rond. En revanche, il y a quelque chose dont on parle assez peu.
La ministre est bien débrouillée quand même.
Comment ?
Il faut saluer la ministre Rima.
Ah bah moi je l'ai saluée, mais qu'est-ce que je me suis fait
moi incendier. J'aimerais
saluer
bien
sans problème parce que je trouve que cette ministre est une des bonnes surprises de ce gouvernement.
Le film de Justine Triet, paraît-il, est formidable.
Moi je trouve qu'on pourrait parler de politique culturelle au lieu de parler de budget incessamment, vraiment. Ouais.
Le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est un point qui est un peu lié à ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire à la fois Roland-Garros et l'ambiance sportive, c'est qu'on n'en parle pas du tout, ou on en a parlé très très peu. C'est le fait que la patronne du CIO français se soit fait la malle, car elle ne supportait pas que son prédécesseur lui scie les branches sur lesquelles elle était assise pour diriger le comité olympique. Or, les Jeux Olympiques, c'est l'été prochain. Et là, vous avez tous les athlètes à l'entraînement, vous avez été vous-même une athlète, Rachel, et nous avons un CIO français, c'est à la limite du gag, qui est décapité pour des histoires de rivalité interne absolument insupportables et ridicules, des histoires de radio, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail. Et comment va faire le gouvernement? Parce que Mme Oudéa a l'air assez ferme en général sur les décisions qu'elle a prises dans la réforme du football, dans la réforme du rugby, c'est-à-dire à la fois Laporte et puis le patron de la Ligue. Ouais. Est-ce que vous êtes de la Fédération? Est-ce que vous avez l'impression que là, il y a urgence?
Là, il y a urgence. Et c'est vrai que c'est pas tant dans le concret, les conséquences concrètes, puisqu'on a le COJO qui est dirigé par M. Estanguet, qui est présent. Mais c'est sur la symbolique. C'est-à-dire qu'on sait que cette structure, elle est très convoitée. Évidemment, c'est un lieu de pouvoir, de puissance. Et là, en fait, c'est effectivement la honte. Donc la ministre Oudéa Kersten, etc., a eu des mots toujours très fermes, toujours très dignes, mais elle a bien noté la honte que génère cette situation. Et surtout, on est aux antipodes de la charte olympique. On est aux antipodes de... on a quand même des anneaux olympiques.
Elle s'appelle Brigitte Henrique, elle a carrément démissionné.
Elle a démissionné parce que c'était insupportable.
Ils ont parlé de haine entre eux, de son prédécesseur.
De haine entre eux, de situation de harcèlement. En fait, une ambiance complètement délétère aux antipodes de l'ambiance des Jeux Olympiques. Donc, effectivement, dans la symbolique...
Mais athlète, pardonnez-moi, qui avait été athlète.
Hein. Oui, c'est terrible.
Vous qui avez été athlète, est-ce que vous pensez que pour tous ceux qui nous représentent, ça crée un malaise ou pas?
Bien sûr, ça crée un malaise dans l'ensemble du sport. Lorsqu'on a des instances dirigeantes qui sont en train de s'écharper, alors ça n'empêche pas les entraînements, ça n'empêche pas les objectifs. Je sais qu'il y a les athlètes français qui sont à l'entraînement, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup d'athlètes étrangers, notamment européens, qui viennent aussi là depuis peu, puisqu'on est à un an et demi, qui viennent aussi s'entraîner. Ça crée dans une ambiance.
Ils sont sur la billetterie en plus maintenant.
En plus, mais ça crée une ambiance qui est absolument délétère, qui n'est plus du tout en cohérence avec la charte olympique signée en 1894 et initié par Monsieur de Coubertin sur cette harmonie qui permet une émancipation et une harmonie humaine.
Alors vous êtes une athlète, mais figurez-vous que Bruno Jeudy est aussi un athlète car
absolument,
c'est un des marathoniens de la profession.
Voilà.
Et marathonien extrêmement performant. Vous aimez le sport, les gens sont passionnés par Roland Garros qui arrive parce que malheureusement il n'y a plus de Federer et malheureusement Nadal est au tapis. Mais ce que ça donne comme intérêt évidemment à la compétition et peut-être plus important que les précédentes années, parce que les autres années, on disait, à la fin, c'est toujours Nadal, pratiquement, même quand il était archi-blessé l'année dernière. Or, cette fois-ci, il va y avoir du suspense. Est-ce que cette espèce de décapitation du mouvement olympique français vous paraît être une catastrophe d'organisation?
Oui et non. D'abord... Oui, c'est inquiétant parce que la France a absolument besoin de réussir ces Jeux pour montrer que au monde entier qu'elle ne décroche pas, qu'il y a les moyens pour la France de se hisser au niveau où elle veut être, même si nous restons un pays de taille modeste, mais un grand pays par son histoire. Et donc c'est important pour l'image et pour ce qu'elle renvoie. Or là, ce qui se passe.
Et pour l'organisation.
Or là, ce qui se passe, c'est que non seulement Madame Henrique démissionne du Comité National Olympique, mais vous avez eu la purge au foot, au rugby, vous avez des enquêtes sur la fédération de judo, de tennis, donc toute la technostructure sportive déconne totalement. Alors Madame Oudéa fait le ménage, mais on voit bien que tout ça va peser sur l'organisation des Jeux Olympiques. Et il faudrait pas que ça entraîne derrière, que ça donne des armes à ceux qui vont s'opposer aux Jeux. Parce que je pense que les Jeux, dans l'opinion, ce n'est pas gagné.
Et puis ça va être une bataille, vous le savez, aussi dans le cadre de la réforme des retraites.
Absolument.
On sait que, alors on est très loin, hein, la réforme des retraites sera probablement adoptée, mais il y a une espèce d'ambiance qui fait qu'il y a des perturbateurs qui vont vouloir
C'est très important parce qu'il faut d'abord que le pays, que l'exécutif, la ville de Paris, arrive à entraîner les Français dans cette affaire des Jeux. Or, on voit que tout ça, ça plombe et tout ça, ça donne des armes à ceux qui vont forcément, parce qu'on est en France, qui vont s'opposer aux Jeux Olympiques. Et on le sait, alors pour l'instant, ils sont minoritaires et on espère qu'ils le resteront. Mais il faudrait pas que ça ait un impact qui donne des armes supplémentaires à ceux qui vont s'opposer forcément à ces Jeux pour de bonnes ou de mauvaises raisons, surtout des mauvaises.
Voilà, surtout que les derniers Jeux qui ont été organisés souvent sont dans les pays, disons, qu'on peut qualifier de dictatoriaux, et que la dernière fois qu'un grand pays européen les a organisés, c'était à Londres, et c'était formidable.
Formidable. Ouais.
Tout le monde se souvient de Daniel Craig et de la reine. Voilà, qui avait participé donc à un clip absolument phénoménal avec James Bond.
Mais les fuites sur la cérémonie d'ouverture, ce qui se prépare en termes artistiques, ça a l'air formidable.
Ah, ça a l'air formidable.
Ouais.
C'est quoi ?
Je vous dis, c'est le spectacle qui se prépare sur la scène.
C'est quoi ?
Son et lumière, c'est un truc. Moi, je l'ai pas vu, mais il a été montré à quelques personnes, notamment ceux qui ont appuyé sur le bouton. Oui, c'est-à-dire le président de la République, un certain nombre d'officiels, et ils sont absolument.
Mais c'est vrai qu'il faut.
8h58. Pardonnez-moi, ma chère.
Non, Rachel. Mais c'est vous avez raison. C'est l'heure.
Ouais, c'est...